Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 18 mai avec le journal de Sébastien Eugénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel ce soir commence par un ratage.
Oui, le premier ratage pour l'exécutif. L'ancien conseiller de l'Élysée, Jérôme Peyrat, investi en Dordogne pour les législatives avec le soutien d'Emmanuel Macron, a dû retirer sa candidature plombée par sa condamnation pour violence conjugale. Explication du service politique. Dans l'actualité également, un visage, celui d'un soldat russe de 21 ans aux airs d'adolescent poursuivi pour le meurtre d'un civil au début de la guerre en Ukraine. Premier procès des crimes de guerre après l'invasion russe. Nous serons sur place à Kiev. À suivre aussi la Commission européenne qui propose un plan pour sortir du gaz russe. 11 arrestations dans la mouvance d'ultra-droite. Une étude de l'INSEE sur les inégalités de revenus d'une génération à l'autre. Et puis quand des cheminotes n'ont pas de toilettes à bord des trains de fret.
À 18h15, un jour dans le monde ce soir, on va aller chercher un peu l'histoire. L'histoire et le passé de Volodymyr Zelensky avec un livre, une bio, c'est la première, écrite par deux journalistes dont l'un correspondant à Kiev a aussi suivi sa campagne et l'avait rencontré à cette occasion-là. Ils pourront tous les deux nous raconter la métamorphose de cet homme. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne, aïe aïe aïe, dans les prix bousculés par l'inflation, il y a les taux, une envolée subite du coût de l'argent qui bouscule vos projets immobiliers, hausse des prix, baisse des prix, frilosité, importance des banques, les équations deviennent extrêmement périlleuses et on en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
On commence donc avec un premier gros couac sur les listes LREM aux législatives.
Il y avait eu l'affaire Tahabouaf chez les Insoumis, ce journaliste militant accusé de violences sexuelles et vite débranché des listes de la NUP. Il y a maintenant l'affaire du marcheur Jérôme Peyrat, ancien conseiller à l'Élysée, investi en Dordogne, mais condamné pour violences conjugales. Son cas mettait la majorité dans l'embarras depuis quelques jours avec ce matin, dernier épisode, la maladresse du patron de la majorité, Stanislas Guérini, qui a tenté de prendre sa défense chez nos confrères de France Info. Eh bien, Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Peyrat a annoncé cet après-midi qu'il retirait sa candidature.
Oui, parce que cette candidature aurait pu porter atteinte à sa famille politique, c'est ce que déclare Jérôme Peyrat à l'agence France Presse, tout en invitant, et je le cite, à regarder précisément les faits qui lui sont reprochés et les autres décisions prises dans cette affaire. Référence à la condamnation de son ex-compagne pour des appels et SMS malveillants contre lui. Sa défense, sur le fond, rejoint celle de Stanislas Guérini. Il appelait ce matin, vous l'avez évoqué Sébastien, à prendre en compte la complexité de cette affaire et qualifier le désormais ex-candidat d'honnête homme qu'il ne croyait pas capable de violence sur les femmes. Propos on ne peut plus contre-productif puisqu'ils ont lancé la polémique, excédé les députés de la majorité sortante et finalement eu raison de la candidature de Jérôme Peyrat. Le délégué général du parti présidentiel reconnaît d'ailleurs ce soir que ses propos ont pu heurter ou blesser. En tout cas, en débranchant aussi vite son ex-conseiller Emmanuel Macron a fait ce qu'il déteste, réagir sous la pression. Il faut dire qu'il en allait de sa crédibilité, lui qui a décidé de reconduire l'égalité homme-femme comme grande cause du quinquennat. Il y aura bien une candidature macroniste en Dordogne, la députée sortante Jacqueline Dubois qui partait en dissidence et que La République En Marche pourrait finalement laisser concourir sans candidat officiel face à elle.
Les explications de Simon Le Baron du service politique de France Inter.
Il est jugé pour avoir tué un commerçant ukrainien d'une rafale de Kalachnikov.
C'est l'image du jour dans la guerre en Ukraine. Le sergent Vadim Chichimarin, 21 ans, un tout jeune soldat russe, un sous-officier accusé de crimes de guerre, présenté aujourd'hui devant le tribunal de Kiev. Notre envoyé spécial en Ukraine, Valérie Krova, a pu assister au premier moment de cette audience avec, dans le box, un garçon au physique très juvénile.
Le crâne rasé, vêtu d'un sweatshirt à capuche, le jeune sergent originaire de Sibérie a répondu oui à la question du procureur qui lui demandait s'il reconnaissait les faits dans leur intégralité. Ce n'est pas une surprise. Après son arrestation, il avait avoué avoir tué un villageois qui n'était pas armé. C'était fin février, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. La séance a ensuite été interrompue. Le tribunal de district de Kiev n'était pas assez grand pour accueillir tous les journalistes ukrainiens ukrainiens et étrangers venus assister à ce procès historique. Les autorités judiciaires n'avaient pas anticipé qu'il y aurait autant de monde. Le procès a été ajourné, il reprendra demain dans le bâtiment de la cour d'appel de Kiev. Deux témoins qui ont assisté au meurtre du villageois seront entendus. L'arme avec laquelle le jeune soldat russe a abattu cet homme de 62 ans, une Kalachnikov, sera également présentée au juge. Kiev, Valérie Krova, France Inter.
Et sur le terrain, ce sont près de 1000 soldats ukrainiens de l'usine Azovstal à Mariupol qui se sont rendus depuis le début de la semaine. Chiffre donné par les autorités du Kremlin qui n'ont donné aucune indication en revanche quant au sort qu'elles réservaient à ces prisonniers. La guerre qui se joue aussi entre les chancelleries, Moscou a décidé d'expulser des dizaines de diplomates européens de son territoire. 34 diplomates de l'ambassade française à Moscou qui devront quitter la capitale russe d'ici deux semaines, expulsés en représailles à l'expulsion de 41 diplomates russes qui se livraient selon Paris à des activités d'espionnage. 27 diplomates ont aussi été expulsés chez les Espagnols et 24 pour les Italiens. C'est un plan à près de 300 milliards d'euros. Voilà l'enveloppe que la Commission européenne propose aux 27 pays de l'Union européenne. Elle propose de les mettre sur la table pour sortir rapidement de la dépendance énergétique à la Russie. Priorité aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Les précisions à Bruxelles d'Angélique Bouin.
Doubler d'ici 3 ans les panneaux solaires sur les toits, les rendre obligatoires d'ici 2030 sur toutes les nouvelles constructions, en commençant par les bâtiments publics et commerciaux. La Commission veut aussi raccourcir les délais d'obtention de permis pour installer, par exemple, un champ d'éoliennes, en inversant le processus. Plutôt que d'attendre qu'un promoteur soit intéressé par un site, les États seraient invités à répertorier en amont ceux qui sont propices à ces installations sans risque pour l'environnement. Ursula von der Leyen.
Aujourd'hui, cela prend parfois entre 6 et 9 ans pour avoir un permis pour une ferme éolienne, par exemple. Et donc, maintenant, on veut définir des processus d'autorisation qui ne dépasseront pas un an.
La Commission propose aux États de puiser dans les fonds européens pour financer cette transition à marche forcée. L'hydrogène et le biométhane sont également privilégiés. Mais à court terme, les 27 auront encore besoin de gaz, en particulier de gaz naturel liquéfié. Légère entorse au pacte vert, ils pourront investir jusqu'à 10 milliards d'euros pour adapter leurs terminaux gaziers. Elle propose également des achats en commun, comme on l'a fait pour les vaccins. Elle invite enfin les 27 à mener de grandes campagnes de communication pour que chaque Européen fasse des efforts en matière d'économie d'énergie. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
C'était la voix et le visage des victimes d'attentats depuis 40 ans, reconnaissables à sa canne dans les tribunaux. Françoise Rudzetsky est morte la nuit dernière à l'âge de 73 ans. Cette juriste avait créé SOS Attentat après avoir été grièvement blessée lors de l'attentat du Grand Véfour en 1983. Eux préparaient-ils des actions violentes en France? Un groupe d'ultra-droite néo-nazi a fait l'objet aujourd'hui de multiples arrestations. 11 hommes et femmes mises en garde à vue hier. Bonsoir, bonjour, bonsoir Emmanuel Macron, Emmanuel Leclerc, pardon, je suis désolé.
Bonsoir,
Sébastien. Le groupe se prénomme Vengeance Patriote. Qui sont-ils et que prévoyaient-ils de faire?
Eh bien, de sources proches du dossier, on évoque surtout une opération destinée à vérifier que les messages cryptés que ces suspects s'échangeaient ne cachaient pas de projets plus concrets de passage à l'acte pour nettoyer les rues de la racaille, comme ils se vantent régulièrement. Les 11 arrestations ont été suivies de perquisitions systématiques à leur domicile dans plusieurs régions. Près de Paris ou encore dans le sud-est, on sait que plusieurs militants de ce groupuscule, identifiés par les services de renseignement comme appartenant à la fachosphère, eh bien, sont soupçonnés d'avoir saccagé un bar associatif de l'ultra-gauche à Montpellier. Les membres présumés de Vengeance Patriote communiquaient sur des plateformes comme Discord, puis des messageries comme Riot, une galaxie d'une centaine de personnes avec des profils de survivalistes, adeptes de l'auteur néo-nazi américain Jason Mason et des milices d'autodéfense. Certains s'entraînaient dans un parc de Bercy, dans le 12e arrondissement de la capitale, comme l'avait révélé le site Street Press. Le chef présumé de cette organisation, Lucas Standarowski, avait été arrêté en décembre dernier. Des armes avaient été saisies, mais pour l'instant, les perquisitions toujours en cours n'ont rien donné. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures.
Emmanuel Leclerc, une nouvelle chute en bourse du groupe Orpea, moins 13%. Cet après-midi, le groupe d'EHPAD privé rattrapé par une nouvelle affaire révélée dans Mediapart. Selon la laquelle Orpea est menacée d'un scandale financier à cause d'un de ses investisseurs luxembourgeois soupçonné d'opérations douteuses.
Quand les inégalités de revenus se reproduisent de génération en génération.
C'est la conclusion d'une enquête de l'INSEE publiée aujourd'hui qui, pour la première fois, étudie les liens entre les revenus des parents et ceux de leurs enfants. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Un chiffre résume le phénomène. Les enfants de familles aisées ont 3 fois plus de chances d'être riches que ceux issus de familles modestes.
Oui, c'est dire à quel point les inégalités de revenus ont tendance à se reproduire. Mieux les parents gagnent leur vie, mieux les enfants gagnent la leur. Ce n'est pas une règle universelle, nous dit tout de même l'INSEE. Il peut y avoir des disparités de revenus entre jeunes adultes de 28 ans, c'est l'âge retenu par l'étude, dont les parents ont des revenus comparables. Mais en moyenne, la tendance est là. On a plus de chances de grimper dans la pyramide des salaires si on est issu d'une famille avec des parents qui tirent un revenu de leur capital, qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et qui ont été mobiles géographiquement dans leur vie. Autre facteur discriminant, les régions où l'on vit, on gravit plus facilement l'échelle des revenus en Île-de-France que dans les Hauts-de-France ou qu'en Normandie. C'est plus facile pour les garçons que pour les filles. Et quand on est issu ni d'une famille monoparentale ni d'une famille nombreuse, ce sont les enfants de couple ayant 1 ou 2 enfants qui voient leurs revenus progresser le mieux par rapport à leurs parents.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter. Son comportement ne passe pas à la Fédération française de football. Idrissa Gueye, joueur sénégalais évoluant au PSG, n'a pas revêtu le week-end dernier le maillot arc-en-ciel en soutien à la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Le Conseil national d'éthique de la FFF le somme de s'expliquer rapidement. On en vient à cette injustice peu connue qui touche les cheminotes. Les trains de marchandises ne sont pas équipés de toilettes, ce qui pose problème depuis des années pour les conducteurs de fret et surtout pour les conductrices quand elles ont leurs règles. La SNCF réfléchit à des plans d'action. Dernière expérimentation du service rail mixité, proposer aux cheminotes de tester pendant 6 mois des culottes menstruelles. Seulement 4 femmes sur les 30 conductrices concernées ont accepté. Magali Homo.
Quand elle a reçu le mail proposant des protections hygiéniques lavables,
ça m'a fait rigoler et je lui ai même pas répondu.
Magali Dumas, perpignanaise, une des premières conductrices de fret en France, trouve le concept inadapté.
Cette nuit, j'attaque à 2h du matin, j'arrive à 8h à Avignon. Donc là, si je mets pendant tout ce train-là ma culotte menstruelle, le souci, c'est qu'en arrivant à Avignon, j'en fais quoi? Je la garde comme ça, sale, ou alors je passe mon temps RHR à me laver les culottes et de toute façon, je vais les transporter mouillées. Parce qu'elles n'ont pas le temps de sécher.
Lorsqu'elle a ses règles, cette cheminote CGT est obligée de garder le même tampon parfois pendant 10 heures.
Tant que je peux pas me laver les mains, je le retire pas. Déjà, quand on monte et qu'on descend de machine, les mains sont noires.
C'est justement pour aider son personnel féminin que la SNCF cherche des solutions. Anne-Sophie Nomblo, la présidente de Rail Mixité.
Qu'il y ait des femmes qui souhaitent pas essayer les culottes menstruelles, pourquoi pas? Il n'y a aucune obligation dans la démarche qu'on lance. L'idée, c'est vraiment de proposer à celles qui le veulent de leur financer. Mais ça remplace en rien tout ce qui est fait sur le sujet de l'accès aux toilettes.
Seule possibilité aujourd'hui pour une envie pressante, aller dans la nature ou entre 2 wagons, Olivier Richard, conducteur fret Sudrail.
C'est un métier où on apprend déjà à se retenir très longtemps et on boit assez peu. J'ai eu une infection urinaire assez importante l'année dernière.
La direction en est consciente, la vraie difficulté c'est l'absence de toilettes à bord, oui, mais aussi la disparition de sanitaires devenus insalubres dans les gares de triage.
Magali Homo, voilà qui ne va pas apaiser les automobilistes parisiens. Anne Hidalgo, la maire, entend réduire les nombres de fils sur le périphérique, 3 voies au lieu de 4 après les JO de 2024.
Et on finit, Sébastien, avec un bon coup de soleil.
Journée caniculaire aujourd'hui, on vous l'avait dit, chose promise, chose due, record battu ou égalé dans le sud-est et le sud-ouest. Grosse chaleur également dans le nord-franche-comté avec 30 degrés à la base de loisirs de Brognard, c'est dans le pays de Montbéliard.
Mais franchement, ça fait du bien avec ce soleil-là.
L'eau, elle est excellente, ça fait du bien là, avec des températures comme ça.
Ah, c'est étonnant hein, pour un mais ce temps-là et cette température de l'eau-là. Hein. Mais ouais. C'est agréable, ça fait du bien. On rebooste les batteries.
J'ai bien chaud, oui, il fait très chaud aujourd'hui. Je suis bien bronzée parce que 3 fois Brognard et voilà.
Non, c'est très bien, la misère est moins pénible au soleil.
Voilà, on bronze aussi à Montbéliard. Reportage de France Bleu, Belfort-Montbéliard et les records battus. On y revient juste après avec Sébastien Léas.
Absolument, Sébastien Legénie, merci. Évidemment, à tout de suite dans Un jour dans le monde, dans Sous les radars, vous nous parlerez d'un incroyable tunnel entre les États-Unis et le Mexique pour transporter et de la drogue. Ce soir, on discute avec les auteurs de la première biographie de Volodymyr Zelensky. Et puis au téléphone sonne, je vous le remets dans l'oreille, on regarde monter les taux d'intérêt avec une pointe d'inquiétude. Quand le coût de l'argent monte, les prix baissent, mais l'équation devient compliquée pour les emprunteurs, d'autant que cette hausse, disent les experts, est faite pour durer. On les interrogera ensemble, on verra ce que ça signifie pour vous qui achetez ou pour vous qui vendez. Allez au 01 bien sûr 45 24 7000, un œil sur le ciel.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, l'heure de dire orage. Attention ce soir sur l'ouest.
Oui, des averses orageuses éclatent en ce moment sur le Mercantour et sur le Limousin, mais c'est surtout sur les régions de l'ouest que les orages risquent d'être forts ce soir. Les premiers orages sont en train de fleurir sur le Pays Basque et les Côtes d'Armor. Ce soir et cette nuit, on s'attend à des orages parfois porteurs de grêle entre les Pyrénées-Atlantiques et les Charentes. Et puis une autre salve d'averses orageuses potentiellement fort est à craindre entre les Pays de la Loire et la Normandie en soirée. Ces averses vont ensuite glisser sur le quart nord-ouest pour s'évacuer demain matin par les frontières belges. Les régions du nord-ouest seront à nouveau concernées par une seconde vague d'averses demain. Les averses seront localisées, mais elles pourront encore être orageuses.
Et puis encore de la chaleur aussi.
Oui, alors la chaleur quand même moins record qu'aujourd'hui. Hein. Record égalé aujourd'hui du côté de Millau, de Toulouse ou encore de Montélimar. Et puis surtout les différentes vagues d'orages de la nuit et de la journée vont permettre aux régions du nord-ouest de retrouver des températures plus respirables. 25 degrés à Rennes et à Nantes, 26 degrés à Paris alors qu'il faisait 30 degrés cet après-midi. En revanche, sur le reste du pays, la chaleur va quand même persister. 27 à 34 degrés encore demain après-midi. On notera quand même une baisse des maximales sur le sud-ouest. Côté ciel, quelques nuages bas retarderont l'arrivée du soleil au sud de la Garonne et autour du golfe du Lion. Le soleil et les belles éclaircies s'imposeront encore sur une large moitié est. Et puis sur les régions de l'ouest, le ciel sera plus changeant, parfois chaotique, avec quelques ondées entre les frontières de la Belgique, la Touraine et le Berry.
Sébastien Léas qui repasse après le journal de 19h.